Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Bien le bonjour mes amis, Maître Serran est heureux de vous retrouver, tout particulièrement vous mon cher Philippe, car aujourd'hui je suis le messager de Malika. Oui, Malika que j'ai reçu hier et qui n'a eu de cesse de me parler de vous. Je crois d'ailleurs qu'on a plus parlé de vous que de son affaire. Alors Malika, si vous nous...
Vous avez pris son 06,
alors j'ai son 06, et Malika si vous nous écoutez, et ben je vous salue, et Philippe vous embrasse. Tiens, je reçois un SMS, alors c'est peut-être Malika. Ah non, c'est un SMS du mari de Malika qui me demande de lui communiquer votre adresse. Je suis pas surpris, hein. Malika m'avait précisé que son mari, bûcheron de son état, avec cette particularité qu'il fracasse les arbres, non pas avec une hache, mais à main nue, était quelque peu jaloux. Bah oui, mais si vous arrêtiez aussi de faire votre lover à la radio. C'est pas la première fois, mon cher Philippe, que les clientes me parlent de vous. Je vais même finir par croire qu'on prend rendez-vous avec Maître Serran pour tenter de vous approcher. Ah oui, Philippe, il est gentil. Alors, des fois, c'est avec l'accent. Ah oui, Philippe, il est gentil. Non, c'est vrai, c'est agaçant de voir toutes ces personnes qui, juste en prononçant votre prénom, sont hypnotisées. Et il est comment ? Alors, c'est vrai que quand je vous décris physiquement, à savoir...
Là, le mythe tombe.
Petit, gros ventre, un nez disproportionné par rapport au visage, je vois la déception chez ces femmes qui vous imaginaient comme Apollon, ce dieu grec des arts, du chant, de la poésie et de la beauté masculine. On en est loin. Et c'est là qu'elles me disent « Eh, il a une belle voix quand même ». Et c'est là que je réponds « C'est pour ça qu'il fait de la radio ». Non, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir à la fois une belle voix, un physique exceptionnellement exceptionnel. Je crois d'ailleurs que je connais peu de personnes capables de conjuguer ces deux qualités, voix et physique exceptionnelle. Vous voyez, aujourd'hui dans ce studio, nous sommes... 4. Et je vous demande, mon cher Philippe, qui, au sein de ce studio, réunit ces deux qualités ? Bon, vous vous êtes déjà exclu, hein, c'est pas une surprise. Notre réalisateur aussi. Bref, tout le monde, sauf... sauf Maître Serran, mais en plus de réunir un physique exceptionnel et une voix douce comme le miel, Maître Serran est beaucoup trop modeste pour reconnaître qu'au sein de ce studio, il est le seul à conjuguer ses qualités. Allez, laissons la modestie de Maître Serran de côté. Invitons nos auditeurs à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser les questions. Émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon, qu'on appellera désormais The Voice, Beurre FM. C'est tout droit, c'est parti.
Et je remercie la technique qui fait que... Et Valentin, parce que c'est grâce à Valentin... On a ces voix sublimes.
Non, mais la Malika va être déçue, mais alors totalement,
c'est ça
le truc.
Je sais. Maître Serran, je vous rappelle que la semaine dernière, vous êtes arrivé en disant Je suis vieux et gros.
Qui, vous ou moi ?
Non, vous. C'est vous qui m'avez dit ça la semaine dernière.
Oui, mais sauf que...
Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine ?
Malika m'a vu et a s'est rendu compte qu'évidemment, mon physique, je disais n'importe quoi.
C'est vrai.
Concernant le vôtre, c'est l'inverse.
Bon. Ah, ça va se payer, ça, Maître Serran. Terminez le petit chocolat avant l'émission.
D'accord, donc on dit plus la vérité, on ment aux auditeurs.
On ment.
D'accord.
C'est pour ça qu'on fait de la radio. On va parler de la RCC qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Alors c'est vrai qu'on se méfie jamais assez et pourtant c'était l'une des mesures phares qui a été annoncée dans les ordonnances qui réforment le code du travail, c'était l'année dernière. Et on a vu cette semaine, alors il y avait deux entreprises qui ont fait parler d'elle puisqu'elles l'ont testée, c'est PSA et Pinky et pas toutes les deux avec le même succès.
Alors c'est vrai que c'est une mesure donc qui relève de ce qu'on a appelé les ordonnances Macron de septembre 2017. Et l'actualité fait qu'on a assisté donc à cette première utilisation de cette rupture conventionnelle collective de la part de PSA. Et c'est passé sans aucune difficulté. Et Pimki a tenté de faire la même chose et il y a eu un désaccord avec les syndicats. Donc ça n'est pas passé. Ce qui est intéressant, c'est... de savoir que cette rupture conventionnelle collective, c'est l'équivalent de ce qui existait auparavant, de la rupture conventionnelle individuelle. Donc c'était possible, mais on faisait ça en tête-à-tête avec chacun des salariés. Donc ces ordonnances permettent de faire une sorte de plan collectif donc dans le cadre de cette rupture. Alors il y a des conditions qui sont évidemment... à réunir. Donc d'abord il faut savoir qu'il faut l'accord des syndicats donc dans leur majorité. Il faut savoir que ça ne peut pas, alors j'allais presque dire en théorie tout ça est très beau puisqu'on ne peut pas, en tout cas la société, le patron ne peut pas l'imposer à ses salariés. Les salariés doivent être volontaire. Donc dans le meilleur des mondes, on se dit moi je suis volontaire pour partir, on va être plusieurs et puis la société serait est d'accord également puisqu'elle nous propose ça. Donc a priori on se dit que tout est ok, tout est carré. On se dit aussi que parmi les garde-fous, cette fameuse rupture conventionnelle collective est soumise donc à une administration qui s'appelle la DIRECT. Alors c'est la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Et c'est vrai que la DIRECT doit examiner donc ce fameux contrat, cette fameuse rupture conventionnelle, pour voir donc si tout est carré et si si évidemment on n'a pas de difficultés. Donc dit comme ça, on a l'impression que tous les garde-fous sont réunis, qu'il n'y aurait pas de problème.
Sauf qu'avant, il y avait quelque chose qui existait, Maître Serran, mais qui existe toujours, c'est ce qu'on appelle les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi.
Oui.
Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé des PSE à cette rupture conventionnelle collective?
C'est l'aspect, d'aucuns diront, libéral des ordonnances Macron. Les PSE, auparavant, une société pouvait recourir à ces PSE à partir du moment où elle pouvait justifier, elle devait justifier deux problèmes économiques.
Et là, dans le cas de PSA, c'est pas du tout le cas.
Et non,
on s'est rendu compte que PSA va bien.
La vraie révolution, c'est ça. C'est que vous avez plus besoin aujourd'hui de dire que ma société a des difficultés, que j'ai des débouchés qui se ferment, que j'ai une baisse de bénéfices. C'est-à-dire qu'une société qui se porte très bien aujourd'hui peut dans le cadre de sa gestion, peut décider de se séparer d'un certain nombre de salariés. Donc c'est une vraie révolution. Encore une fois, avant, problème économique.
Économique, voilà. Donc là, ça se comprenait, oui.
Ça s'entendait, comprenait, voilà, il n'y a pas de difficulté.
Et là, aujourd'hui, on va bien, on va aller encore mieux.
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on veut aller encore mieux. Et il y a un élément qui est également très important, c'est que auparavant, vous étiez licencié dans ce cadre-là. Si la société finissait par se redresser, si elle allait mieux, vous faisiez partie des priorités de réembauchage. Avec la rupture conventionnelle collective, c'est plus le cas. C'est-à-dire que j'ai pas à faire appel à vous, même si demain je décide d'embaucher de nouvelles personnes. D'ailleurs, PSA, mais même Pimki, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas caché, ils ont joué le jeu en disant on souhaite, entre guillemets, se débarrasser d'un certain nombre de salariés, et puis on envisage d'embaucher d'autres personnes.
Alors, dans d'autres secteurs, alors voilà.
C'est ça qui est, encore une fois.
Moi, j'ai une question, Maître Serran.
Dites-moi.
Si vous faites partie de, par exemple, de la charrette, comme on a appelé ça avant, mais que vous voulez pas faire partie de la charrette, est-ce qu'il s'applique à vous ou pas l'accord?
Non, c'est encore une fois, c'est-à-dire que dans les textes, on dit que vous devez, entre guillemets, présenter votre candidature au départ.
D'accord, donc il faut que vous soyez consentant.
Voilà, bon, dans le meilleur des mondes, le consentement du salarié, on peut l'entendre et le comprendre. On n'est pas forcément dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'on va pas me faire croire, mais personne ne le croira, qu'il y a une égalité parfaite entre l'employeur et le salarié. Évidemment, on va pas vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous dire ce serait bien d'accepter, mais il y a mille et une manières de se débarrasser, de pousser vers la sortie un salarié quand on veut le faire. Donc la crainte, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'absolu, on se dit que ces textes prévoient des garde-fous. On sait très bien que quand vous êtes au sein d'une entreprise, au sein d'une société, les beaux principes, les textes, je vais pas dire que tout le monde s'en fout, mais le DRH ou le patron qui veut se débarrasser de vous, il va faire en sorte que vous finissiez peut-être par accepter, alors peut-être contre votre gré, mais par accepter quand même cette option, cette possibilité. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est un outil qui est très intéressant, mais pour qui? Eh ben pour l'entreprise, pour l'employeur, et c'est un outil qui précarise quand même, qu'on le veuille ou non, la situation des salariés. Alors
ça ressemble à des plans sociaux déguisés.
Les mauvaises langues pour certains disent qu'effectivement ça ressemble à des plans sociaux déguisés. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être une mauvaise langue pour penser ça.
Ça ressemble
fortement à des plans sociaux déguisés. On parlera peut-être la semaine prochaine de la circulaire Colon, donc qui concerne les étrangers, et vous voyez dans ces deux domaines, en matière sociale,
ça ressemble à du tri déguisé.
Et en matière d'immigration, imaginez 30 secondes, et c'est ça qui est un peu fou, que si à l'époque Sarkozy avait simplement évoqué ce genre de choses, il y aurait une révolution.
Il l'aurait jamais fait.
Il y aurait une révolution en France, et puis là, tout passe, tranquillement, et c'est ça qui est inquiétant. Mais moi, j'en veux même pas.
Mais Sarkozy est beaucoup moins à droite que Macron.
Ah ben, mais c'est non, mais c'est un constat objectivement. Ouais, c'est un constat. Mais dans l'absolu, j'en veux même pas à Macron. On se dit simplement que les mentalités ont changé dans ce pays. C'est ça la difficulté.
Ah, vous voulez pas dire du mal du président.
Ah, mais pas du tout.
Ah là, je vois bien que vous avez anticipé qu'il était là pour au moins 10 ans. Maître Serran, pas Serran. Fou.
Pas non, mais
fou.
Pas fou, Maître Serran. Non, mais le dans l'absolu, comme dirait, on a les dirigeants qu'on mérite. C'est-à-dire que, vous voyez bien, il y a pas de mouvement particulier. Alors, de temps en temps, il y a un syndicat qui s'agite un peu, mais il y a pas de mouvement de foule. C'est-à-dire que, à partir du moment où la société accepte tout ça, honnêtement, moi je peux comprendre.
Moi, j'entendais le représentant syndical de FO chez Peugeot, il disait nickel, hein, c'est bien, tout ça, il était très, il se réjouissait.
Il y a un discours. Ah, voilà. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire il y a un discours extrêmement lisse, mais. Il a raison de se réjouir, je le redis, à partir du moment où où la base l'accepte, ou alors où tout le monde est amorphe, et puis le jour où ils vont se réveiller, la douleur sera forte, mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que puisque la société, la base de la société l'accepte, dont acte, et on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement de foule. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant que du temps de Sarkozy, il bougeait une oreille et puis tout le monde était sur lui, alors les intellectuels et puis les syndicats et autres, Macron fait sa puissance 1000 et puis tout passe, bon. Bah, donc c'est tout, c'est toute la difficulté.
Je sens que vous regrettez un peu l'ancien président de la République.
Mais non, mais je vais vous dire, alors l'ancien, ça dépend lequel, si c'est Hollande, voilà.
Non, mais là, Sarkozy.
Sincèrement, non, mais j'ai été l'un des premier, encore une fois, à mettre en avant les difficultés que nous posait ce président qui était un peu agité. On avait l'impression qu'il faisait tout et n'importe quoi. Mais on est en train de se rendre compte qu'on a un président qui est moins agité, mais qui fait les pires des choses et que tout passe sans aucune difficulté. Donc je le redis, j'en veux même pas à Macron. J'en veux à vous, à moi, à la population française et autres qui considèrent que tout ça est normal.
Rappelez-nous
et qu'ils l'acceptent.
Pour qui vous avez voté au présidentiel, Maître Serran?
Je ne vote jamais.
Kader, voilà. Est avec nous au 01 53 48 3000. C'est QFD.
Tout est dit.
Kader, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, Maître Serran vous écoute.
Bonjour, Kader.
Oui, bonjour et bonne année à tous.
Bonne année à vous, Kader.
Ma question concerne l'autorisation provisoire de séjour au profit de citoyens algériens. Quelle est la règle et quelle est la doctrine? Donc spécialement pour les Algériens.
C'est pas l'autorisation provisoire.
C'est la possibilité de venir et d'obtenir son petit titre de séjour sur le territoire français. Alors la règle et la doctrine, encore une fois, alors je suis désolé parce que c'est hyper vaste et tout dépend de ce que vous pouvez invoquer comme élément.
Excusez-moi, j'ai pas précisé que c'était pour les personnes malades.
Alors, pour les personnes malades, il faut... alors, c'est une sorte, j'allais dire, de contrat. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? C'est une sorte de contrat entre la personne qui est souffrante, qui est malade, et les autorités françaises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que vous souffrez d'une pathologie qui, a priori, ne peut pas être traitée au sein de votre pays. Donc, si vous êtes de nationalité algérienne et puis vous avez telle ou telle maladie qui ne peut pas être soignée sur le territoire algérien, alors soit parce que il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les médecins qu'il faudrait, ou il n'y a pas les médicaments, donc c'est vrai que vous avez la possibilité de demander à pouvoir venir sur le territoire français et à pouvoir être soigné sur ce territoire français. Donc il y a évidemment des médecins de l'administration qui vont contrôler et vérifier vos dires. Donc quand c'est comme ça et quand on veut constituer un dossier, il faudrait d'abord réunir un ou des certificats médicaux de médecins algériens pour établir la réalité de cette pathologie. Mais je dois reconnaître que à partir du moment où les autorités françaises considèrent, monsieur, que le dossier de la personne souffrante est, pardon pour l'expression, mais on va dire carré, c'est-à-dire qu'effectivement, il est attesté, et par les autorités, enfin par les médecins algériens, mais également par un médecin ou des médecins français que seule la France peut, au moment où on se parle, vous soigner ou soigner la personne, à partir de ce moment-là, vous serez, en tout cas la personne sera autorisée à demeurer sur le territoire français. Ce qui se passe, et ce qu'il faut savoir quand même, c'est pour ça que je vous parlais d'une sorte de contrat entre la personne souffrante et la France. La philosophie, c'est quoi? C'est que moi, France, je vais vous accepter sur le territoire français pour que vous puissiez vous faire soigner. Soigner, Ça veut dire qu'à partir du moment où moi, France, je considère que votre État va mieux, je considère que un suivi éventuellement à la suite d'une opération peut se faire sur le territoire algérien et pas exclusivement en France, eh bien j'aurais tendance à vous dire, madame, monsieur, j'ai rempli ma part du contrat, maintenant que vous allez mieux, où il y a des services maintenant en Algérie, où il y a des médicaments qu'on ne trouvait pas auparavant mais qu'on a maintenant, je vais vous inviter à quitter le territoire français et à retourner au pays. Ce qui se passe très souvent, c'est que on a ce genre de réponse, c'est-à-dire que l'administration dit, moi je considère que vous allez mieux, madame, monsieur, au revoir, vous pouvez retourner au pays. Et puis on a des clients qui nous disent que, alors que eux se sentent, entre guillemets, toujours mal, alors je les crois quand ils me disent ça, mais faut pas oublier que ces informations sont confirmées par des médecins et en règle générale, ce sont des professeurs donc qui interviennent dans le cadre de ces procédures. Donc ils savent de quoi ils parlent. Mais à partir du moment où la France considère que vous allez mieux, il n'y a pas mille options si ce n'est de retourner au pays. Et ça pose difficulté puisque j'ai, mais même au sein de mon cabinet, des personnes qui me disent. Je suis venu pour me faire soigner, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un où j'ai désormais un enfant sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut basculer et puis changer d'option et de politique? Donc, quand on veut respecter les règles du côté de l'étranger, la France vous autorise à venir, mais si la France considère que vous allez désormais mieux, la France peut vous demander de quitter le pays, de retourner, vous faire soigner, ou en tout cas suivre dans votre pays d'origine.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Saïd, ce matin. Merci, Maître Serran. On prendra d'autres appels dans un instant. Vous avez une question à poser à Maître Serran, 01-53-48-3000. 01-53-48-3000, c'est tout droit jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran, on s'interrogeait sur votre carrière cinématographique.
Oui.
Il y a des films qui se préparent.
Hein. Il y a des films qui se préparent.
Alors, on cherche des doublures pour les scènes de cascade.
Non, ça je peux les faire, les scènes de cascade. Vous oui. connaissez, grand sportif et cascadeur dans l'âme.
Ah, c'est vrai.
Alors, il y a d'autres scènes, voilà, bon. Où on est un Maître peu dévêtu, je n'ose pas. Non, je n'ose pas.
Voilà, Maître Serran, donc, fera des films avec col roulé.
Voilà.
Voilà, en anorak.
Tant qu'à faire.
Bien, et Sofiane vous appelle de Paris, Maître Serran, au 01-53-48-3000. Bienvenue, Sofiane.
Maître Serran, bonjour Philippe. Bonjour,
Sofiane.
Alors, j'ai une question à vous poser, je vous expose un petit peu ma petite affaire, maître. Donc, j'ai connu un couple de personnes âgées.
Oui.
Je me suis occupé d'eux pendant 10 ans, d'accord ? Au bout de 7 ans, ils ont voulu me faire un petit plaisir. Ils m'ont laissé leur maison en viager, d'accord ?
Oui.
La maison en viager, elle a été actée par un notaire et compagnie, validée.
Alors, attendez, parce que ça devient intéressant,
ouais,
l'histoire.
On ne vous entend plus, là.
On est coupé, Sofiane. Alors, on était resté. Alors voilà, Sofiane, ça a coupé, donc on était resté oui. à cette proposition de viager qui vous est faite au bout de 10 ans.
Voilà, donc validé, acté.
Voilà,
acté. Et oui. Par la suite, ces gens-là ont été très très proches de moi par rapport à de multiples services que je leur ai rendus et tout ça. Donc ils m'ont pris un peu comme leur fils, leur petit-fils. Et ils ont voulu me céder de l'argent, mais. Vu que je ne suis pas héritier ni de la famille ni rien du tout, ils ont voulu qu'on fasse une opération via le notaire en assurance vie. Alors je vous explique, le notaire, on en a parlé, il nous a proposé pour que je paie le moins d'impôts de prendre l'argent qui était en bourse, parce qu'ils avaient des portefeuilles en bourse et tout ça, de les mettre en assurance vie, dans un gros groupe d'assurance vie. Vous me suivez ?
Oui, on suit.
En fait, c'est pas Sofiane, hein, c'est François-Marie Bagnier qui s'appelle.
Jusqu'à là. Tout va bien. Il me met avec un contact, donc un courtier en assurance, dans lequel il a l'habitude, d'après lui, de travailler avec lui. D'accord ? Je prends rendez-vous avec ce monsieur, je lui expose l'affaire, il prend rendez-vous avec moi, il m'envoie une collègue à la maison, bref, il prend divers documents, pièces d'identité, qu'est-ce que vous allez faire avec après votre argent, enfin bref, je plonge un peu. Viens à la signature du chèque pour l'envoyer à l'assurance vie, était fait, d'accord. Et malheureusement, la personne âgée a fait un AVC entre temps.
Ouais.
S'est retrouvé hospitalisé. D'accord.
Quand vous me dites âgé, la personne elle a quel âge quand tout ça se produit, se passe?
91 ans, maître.
Ah oui, d'accord.
91 ans.
Donc là, on parle de monsieur et madame.
C'était plus madame qui est impliquée, parce que monsieur était aveugle, il était un petit peu dépourvu de tout ça, ne voulait pas trop...
D'accord.
Donc, madame, avant tout ça, je lui ai quand même fait faire un certificat psychiatrique attestant de ses facultés psychiques, hein, pour pas avoir de problème, justement, avec la justice. Pour pas qu'il y ait une faiblesse ou autre. Donc, certificat 17 sur 20, les deux, très... Mmh. Voilà. Mmh. Donc, je vous le cite un peu les dents. Au mois de décembre, on fait transaction banque à assurance vie, d'accord. Et entre-temps, hospitalisation AVC et tout en mal. Le monsieur pète les plombs, suicidé, il ne supporte pas l'hospitalisation de sa femme.
Merci,
parce qu'il y a multiples hospitalisations.
Bon,
bref, c'est moi qui m'en occupe, d'accord.
D'accord.
Vient malheureusement la dame qui parle un petit peu à l'assistante sociale de l'hôpital en lui disant que je suis toute seule, que j'ai pas de famille, parce que je vous ai dit, mais ils n'ont pas d'héritier, ils n'ont pas d'enfants, ils sont fils uniques chacun.
D'accord.
Donc là, malheureusement, l'assistante sociale met son grappin dessus, les met sous tutelle. Parce que des médicaments,
ouais, bien sûr.
Des traitements très lourds ne peuvent pas être faits à domicile, doivent être faits dans un hôpital, une maison de retraite médicalisée. Donc là, ils sont un peu mis contre leur plein gré en maison de retraite hospitalisée. Donc après, ils se fâchent un peu contre moi parce que près de la mouche, comme si je les avais lâchés. Bon, quand on se fâche, ils ne veulent plus me parler. D'accord.
Là, donc les personnes qui veulent plus vous parler, on parle de ce couple-là.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Ce couple-là.
D'accord.
Parce que
d'accord.
J'étais fâché comme si je pouvais, mais je pouvais rien faire.
D'accord.
J'ai aucun pouvoir parce que je suis pas de leur famille, je suis juste un ami. Bon bref, se retrouve en maison de tutelle. Donc je reviens à mon affaire. Alors là, au mois de janvier, moi, demandant des conseils à un ami qui est dans les assurances, me dit il faut que tu te déclares bénéficiaire acceptant si t'en fais une assurance vie. Ce que je fais. J'écris en recommandé avec les deux pièces d'identité de moi et mon épouse en me déclarant bénéficiant acceptant. D'accord.
D'accord, ouais.
Là, on est au mois de janvier, aucun courrier ne m'est renvoyé. Je m'inquiète, je réécris encore un recommandé en me déclarant bénéficiaire acceptant. Pareil, rien au mois de mars. D'accord. Il se passe janvier, février, mars, 3 mois. Aucune réponse. Jusqu'au mois de mai, où je reçois un courrier du siège d'un gros groupe d'assurance, je ne vais pas le citer pour ne pas faire de pub, et me disant que je n'ai jamais été bénéficiaire ni souscripteur de ce contrat d'assurance vie, et que la personne, parce que je l'avais cité au juge des tutelles, s'était rapprochée un petit peu trop près, à mon goût, des personnes âgées, en s'invitant aux obsèques, parce qu'entre-temps, 2-3 mois après la mise sous tutelle et la maison de retraite, le pauvre monsieur décède à la maison de retraite. D'accord.
D'accord.
Donc ce monsieur, j'ai appris par des amis de ces gens-là, que je connaissais, qu'il était là aux obsèques, qu'il était encore derrière la petite dame. Bon, bref, j'ai trouvé un peu suspect son comportement. Donc, je me suis manifesté au juge des tutelles en disant que depuis que ce couple-là connaît ce courtier, ne veut plus me parler. D'accord.
Ouais.
Je me demande s'il n'a pas fait un petit lavage de cerveau ou bon, bref. Enfin, ce sera à la justice de le déterminer. Donc, la maison mère me renvoie ce courrier en disant que le dossier n'est pas à mon nom. Je ne suis pas souscripteur ni bénéficiaire. Et qu'il dépend au jour d'aujourd'hui du service de déontologie et que la personne qui a traité ce dossier, donc la personne qui s'est approchée des personnes âgées, a été éloignée de l'affaire. C'est plus lui qui s'occupe de ça.
D'accord.
Donc moi, ma question, maître, c'est est-ce que mis sous tutelle, une personne qui a fait une assurance vie ou qui avait l'intention de le faire peut changer son testament ou le souscripteur qui a lavé les idées.
Ah oui, enfin bon. Vous avez compris en gros ce qui vous est reproché. Hein. On a le terme parfois, c'est captation d'héritage, mais là on est dans le cadre, en tout cas encore une fois, hein, dans ce qui vous est reproché de ce qui s'appelle l'abus de faiblesse. C'est-à-dire que on est en train, qu'on le veuille ou non. Alors je ne sais pas si les termes vous ont été dits directement ou pas, mais on est en train de considérer que vous avez ou que vous auriez profité de la faiblesse de ces personnes. Alors faiblesse qui résulterait d'abord de leur âge et ensuite éventuellement de différentes pathologies et de par cette position entre guillemets un peu privilégiée, vous en avez profité pour pouvoir leur souffler peut-être qu'il faudrait que vous puissiez bénéficier de tel ou tel avantage. Donc voilà, hein, pour être carré, c'est ce qu'on vous reproche. Donc l'histoire, c'est ça.
Non maître, mais moi il y a
aucune chose qui me... monsieur, je suis en train de dire c'est ce qu'on laisse entendre. Vous avez bien compris, sinon il n'y aurait pas tout ça, sinon vous ne seriez pas au téléphone.
Mais Serran ne dit pas que ce que c'est vrai, il dit que c'est ce qu'on vous reproche.
Oui, non, bien sûr, c'est ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire que derrière tout ça, on est en train de dire que ce monsieur a profité de ce couple âgé. Est-ce qu'on est d'accord sur le reproche, entre guillemets, ou le non-dit de cette histoire, c'est ça?
D'accord, maître, mais je vous entends, mais je vais vous dire. En fait, c'est pas moi qui leur a dit de faire ça.
Mais monsieur, écoutez-moi, vous avez bien compris, je suis pas en train de vous dire, écoutez, arrêtez de mentir, c'est vous. C'est pas ce que je dis. Comme on n'est pas que tous les deux, il y a aussi des auditeurs, donc pour qu'ils comprennent l'histoire, c'est que il y a un couple âgé, vous êtes occupé de ce couple âgé, à titre, on va dire, de remerciement, ce couple âgé qui n'est pas ingrat considère que vous méritez ou que vous méritiez tel ou tel avantage. Donc, à partir de là, tout est OK. Et puis, là-dedans, des personnes extérieures viennent dire, attendez, c'est quand même curieux que ce monsieur puisse bénéficier de telle ou telle chose, donc ils trouvent ça suspect. Et donc, on va considérer, en tout cas, c'est encore une fois le reproche qui vous est fait, on considère qu'on est dans le cadre de ce qui s'appelle l'abus de faiblesse. C'est-à-dire en disant, c'est peut-être lui qui leur a soufflé que ce serait bien de bénéficier de telle ou telle chose. Alors, vous me dites que... Alors, d'abord, vous me dites que les personnes ont été placées sous tutelle. Alors ça, encore une fois, moi, je peux le comprendre et l'entendre. C'est-à-dire que le rôle des intervenants hospitaliers ou pas, ou des assistantes sociales, étant aussi de savoir, entre guillemets, à qui on a affaire, qui accompagne ces personnes alors qu'ils sont âgés, ces personnes qui sont malades. Donc c'est aussi le rôle de ces institutions de vérifier que ces personnes vont pas se faire demain piller. Donc, l'initiative de dire ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes malades, souffrantes, ça mérite peut-être qu'on saisisse le juge des tutelles. Voilà, moi, j'ai rien à redire là-dessus, je peux l'entendre et le comprendre.
Aussi, tout à fait. Voilà. Je le comprends.
Bon, c'est ensuite. Monsieur, j'ai bien compris. J'essaie juste de terminer mon le raisonnement. Encore une fois, vous mets pas en cause. Hein, vous avez bien compris. Juste pour reprendre un peu tout ce que vous avez dit. Il faut savoir aussi que à partir du moment où le juge des tutelles est saisi, il va se baser sur des certificats médicaux et puis voir si effectivement cette mesure de tutelle est justifiée ou pas.
D'accord.
A priori, je crois comprendre que la mesure de tutelle a été motivée et expliquée par le magistrat, donc il ordonne cette mesure de tutelle. Donc, le tuteur, d'ailleurs le tuteur c'est qui? C'est une institution ou c'est un membre de la famille?
C'est une personne que le juge a désignée.
D'accord. Donc c'est pas un membre de la famille de ces gens-là?
Non.
Bon.
Non, du tout. Ils n'ont pas de famille en fait.
Bon. Et le rôle... du tuteur, mais sous le contrôle du juge des tutelles, étant évidemment de vérifier si tout ce qui a pu être fait auparavant, alors éventuellement des donations, éventuellement des prêts, éventuellement telle ou telle chose, est-ce que ces personnes, au moment où elles ont décidé de, d'accorder, entre guillemets, ces avantages ou ces faveurs, est-ce que ces personnes avaient leur pleine capacité intellectuelle pour se rendre compte des conséquences de leurs gestes? Donc c'est une question qui est légitime. Bah, ce serait pas sérieux de vous dire que je n'ai jamais croisé des personnes qui profitaient de la maladie ou de la vieillesse de tel ou tel individu. Donc voilà, il faut savoir que rien n'interdirait, monsieur, d'engager des procédures pour annuler ce qui a pu, entre guillemets, vous être donné ou remis. Rien n'interdit. Alors ça, c'est l'aspect civil, mais rien n'interdirait non plus sur un plan cette fois-ci pénal. Ce serait techniquement possible, ou une initiative du procureur de la République qui pourrait considérer qu'effectivement vous vous êtes peut-être un peu trop entre guillemets rapproché de ce couple âgé, mais pas forcément avec de bonnes intentions.
D'accord, je comprends.
Voilà.
Mais la question c'était en fait par rapport au papier qui aurait dû être fait. C'est ça le problème, c'est que il n'y a rien qui a été fait par le réellement par le courtier. Il a tout fait pour retarder les choses, et moi personnellement je le suspecte d'avoir lui essayé de profiter
de la situation. J'entends bien, sauf que là au moment où on se parle, est-ce que ce courtier a été, à un moment ou un autre, je ne sais pas, mis en cause, inquiété? Est-ce qu'on lui a reproché quelque chose? Est-ce qu'il a bénéficié des biens de ce couple?
C'est, le problème, c'est que dans le courrier qui m'a été adressé par la maison mère, moi, ils me reprochent rien. Ils me disent, par contre, que la personne, en le citant, a été déchargée du dossier.
Non, mais, monsieur, encore une fois, moi, j'entends bien, mais entre nous, que ce courtier se soit comporté, a priori, puisqu'il est déchargé du dossier, on va dire, pardon pour le terme, comme un escroc, dans l'absolu. En quoi vous êtes concerné? On s'en fout royalement. C'est-à-dire que si demain une initiative d'un procureur de la République ou du tuteur qui dit attendez, ce courtier a voulu jouer l'escroc, nous on va le poursuivre, bah qu'il le fasse.
Oui.
Mais vous m'appelez pas pour me dire tiens, ce courtier est un mec sympa. Mais dans l'absolu, quel est l'intérêt de s'intéresser à ce courtier et de me dire peut-être qu'il a fait un truc malveillant? Bah s'il l'a fait, ils pourront se retourner contre lui.
Oui, parce que il m'a envoyé aucun papier dans la procédure.
J'entends bien, mais c'est pas ça, monsieur, le problème. Vous m'avez dit que vous aviez contacté le juge des tutelles.
Oui, tout à fait.
Bon,
je me suis déclaré.
Alors, le juge des tutelles par rapport à ce que vous êtes en train de me raconter, par rapport éventuellement à ce dont vous avez pu bénéficier, il vous répond quoi? Il vous répond que de votre côté, tout est carré, on va tout maintenir?
Il vient, aucune réponse. Voilà où est mon interrogation.
Alors Sofiane, Sofiane, alors notez le numéro de téléphone de Maître Serran parce que
c'est un peu technique et ça peut être un peu long.
Là on est là jusqu'à un moment.
C'est vrai.
D'accord.
Je vais vous donner mon numéro et mon adresse mail et puis bon, vous me contactez quand vous voulez si vous le souhaitez. Alors 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64.
D'accord.
Et mon mail c'est maître.serhane @gmail.com.
D'accord. Je vous contacte.
Ouais, voilà, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu long et un peu technique, et puis on regardera ça tranquillement.
Et c'est intéressant comme histoire. Merci, Sofiane. Maître Serhane revient dans un instant. Vous avez des questions à lui poser. Interrogez-le au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serhane. 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serhane.
Maître Serhane qui répond à vos questions 01 53 48 3000. Si vous n'avez pas la chance de passer pendant le direct, vous l'appelez après le direct sur son téléphone portable dont il vous rappelle son numéro.
Absolument, au 06 62 58 59 64.
Les plus bavards d'entre vous peuvent lui envoyer un mail également.
Tout est possible sur maître.serhane, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Très bien. Et nous allons nous allons rejoindre Fatia qui nous attend depuis un moment et qui nous appelle de Villejuif. Bienvenue Fatia.
Oui, bonjour.
Bonjour Fatia.
Bonjour Metsane et bonjour à toute l'équipe et mes meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
Tous mes vœux, ouais. Fatia.
Merci. Alors, Metsane, j'ai une question. Je vais vous exposer le cas de ma cousine, une cousine à moi. Elle habite en Algérie. Elle est divorcée avec son mari. Elle a un enfant avec lui, un garçon.
Oui.
Et après le divorce, après 3 ans, son ex-mari s'est remarié en France. Il a eu un enfant. Après, il a eu sa nationalité française. Et ma question, c'est que est-ce que son fils qui habite en Algérie, il a le droit d'avoir aussi, lui aussi, la nationalité par filiation?
Non, alors si je résume bien, c'est-à-dire que monsieur a demandé à être naturalisé, c'est ça, sur le territoire français?
Oui, après qu'il s'est remarié,
voilà.
En France, après
donc,
le divorce.
Ah, donc alors en fait, voilà, donc a priori il en a peut-être bénéficié par rapport à sa nouvelle épouse.
Exactement.
Voilà, donc non, dans ces circonstances-là, on n'en bénéficie pas. Là, on est dans le cadre. En fait, on peut bénéficier de la nationalité du ou des parents lorsque vous demandez une naturalisation et que dans le cadre de la naturalisation, vous signalez. Alors, ça semble évident, mais beaucoup de clients ne le font pas. Vous signalez, vous avez quand même des enfants qui sont mineurs. Et si la France vous accorde la nationalité française et si vous avez déclaré correctement que vous aviez des enfants et si ces enfants sont mineurs, ils en bénéficient automatiquement.
D'accord.
Mais voilà, mais là il semblerait que monsieur ait pu bénéficier de sa nationalité, donc a priori peut-être avec le mariage d'une personne elle-même de nationalité française ou de double
exactement.
Nationalité. Voilà,
et donc, il a un deuxième enfant ici avec
voilà. Alors
ouais,
rien n'interdirait évidemment à l'enfant de dire oui, mais moi voilà, j'ai un père qui est lui-même de nationalité française, mais contrairement à la naturalisation, je le redis, on peut en faire bénéficier nos enfants quand ils sont mineurs, donc là toutes les conditions ne sont pas réunies. Et alors pardon, je vais quand même vous poser la question, même si on l'évoque pas, c'est-à-dire que l'enfant ferait ça pourquoi? Pour se dire j'ai la nationalité française et je viens en France, c'est la finalité ce serait quoi?
Parce que a priori sa mère elle voulait pas que son père il voulait toujours le prendre avec lui ici en France. Et l'enfant il a maintenant je crois 13 ans ou 14 ans.
Ouais.
Ouais. Et sa mère elle m'a dit pas question, moi il reste avec moi jusqu'à ce qu'il soit majeur, après c'est à lui de choisir.
Oui, mais de toute manière, si vous me dites que le couple a divorcé en Algérie, donc il y a forcément une décision de justice qui doit prévoir et évoquer cet enfant et les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Enfin, donc de toute manière, monsieur ouais, peut pas.
Excusez-moi de vous interrompre.
Dites-moi.
Maître, oui, il est déjà venu le voir. Oui, elle est venue avec lui. Elle
ouais.
Le lâche pas. Elle
d'accord. Pas non, non, mais ça, d'accord. Non, non, mais il s'agit pas de dire que le père ne doit pas voir son enfant. La question
oui,
est.
Oui, il le voit. Mais si jamais, ma question est claire. Si elle va avec son fils au consulat à Oran et après que le père il donne je sais pas un document comme quoi il est naturalisé, est-ce que c'est possible de faire les démarches? Parce que
non madame, si votre question c'est de savoir est-ce que cet enfant peut bénéficier de la nationalité de son père en l'occurrence, là non.
Ouais. Non.
Voilà. Donc non,
il a été naturalisé après le divorce, c'est ça?
Bah oui, mais voyez, c'est ce qu'on peut. Alors j'ai parfois des clients qui disent ah c'est injuste, mais c'est pas injuste. Vous comprenez bien que si effectivement on est naturalisé après les divorces et autres et que la nationalité française pouvait se transmettre sans aucune difficulté, qu'on le veuille ou non, ça posera des problèmes à la France. Encore une fois, il faut être aussi objectif. Donc non, si c'est ce que cet enfant peut obtenir la nationalité française de son père, là non.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que le père peut exiger que l'enfant vienne avec lui? Alors, je pensais que ça faisait partie aussi de ces questions-là. Là, ça ne peut être le cas qu'à partir du moment où la décision, ou en tout cas une décision de justice, peut le prévoir, puisque j'imagine que le juge indique que l'enfant doit rester avec la maman. Encore une fois, j'allais presque dire dans 100% des cas, c'est comme ça, et que le père exerce un droit de visite et ou d'hébergement. Donc le père ne pourra pas prendre l'enfant comme ça sans que la mère l'accepte, puisque vous me dites que la maman, elle, de toute manière, elle ne veut pas.
Non, elle ne veut pas.
Bon.
Mais elle a dit, tant qu'il est mineur, il restera toujours avec moi.
Mais de après, toute manière, après, madame, majeur, une fois qu'il est majeur, il fait ce qu'il veut, oui. Donc, voilà, c'est-à-dire que la mère peut décider de laisser partir ou pas l'enfant, tant que le gamin est mineur, ça c'est voilà, ça, et heureusement, et ça change pas. Après, demain.
Excusez-moi de vous interrompre encore une fois, maître, mais une fois majeur, vous voyez pas que ce sera trop tard un peu qui.
Je crois que vous n'avez pas. Alors, votre question, madame, si c'est est-ce que cet enfant peut bénéficier de la nationalité française du père qu'il a obtenu par rapport au mariage, en tout cas par rapport à son second mariage, non.
Non, d'accord.
Voilà. Donc après, qu'il soit majeur ou pas, ça change rien par rapport à la question que vous me posez.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà. Et alors, pardon, je sors un peu du sujet. J'aimerais qu'on m'explique. Je suis moi-même algérien de double nationalité. J'aimerais qu'on m'explique quel est cet amour absolu de tous les citoyens algériens pour dire on veut tous la nationalité française. Moi, c'est un truc qui me fait un peu peur. Hein. Non, mais madame, c'est ça la finalité dans ce que vous êtes en train de me dire.
Maître, excusez-moi, parce que la mère, elle travaille et il commence l'enfant, le garçon, il commence à grandir et elle commence à avoir des difficultés avec lui. C'est l'adolescence là.
Oui, bah comme tous les adolescents.
Je lui ai conseillé qu'il était temps de laisser partir vivre avec son père. Vous voyez? Et elle m'a dit même s'il va là-bas, il va faire quoi? Il va traîner, il aura pas de papier. Donc du coup, moi j'ai dit peut-être comme son père est naturalisé, peut-être ce sera plus facile.
D'accord, donc ça n'a rien à voir avec. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le fait de bénéficier de la nationalité française. C'est pour que cet enfant puisse mieux évoluer en France.
Non, pas du tout ça. La mère, c'est une maman poule, au contraire. Mais comme il commence à grandir et ça commence les problèmes, elle est toute seule, la pauvre.
Madame, quand on est divorcé, moi je trouve ça, c'est extraordinaire. On peut pas à la fois divorcer et dire on est toute seule. Alors je dis pas que c'est à cause de.
Non, mais maître Serrane, Fatia disait que peut-être comme solution face à des difficultés d'éducation.
Là, je vous comprends. Non, mais madame, dans ce cas-là, c'est simple. Non, mais dans ce cas-là, d'abord, encore une fois, comprenez bien, il y a une décision de justice. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous oubliez ça. C'est-à-dire que si demain, la mère, pour des raisons X ou Y, dit, moi, je peux pas m'occuper de ce gamin parce qu'il est dur, parce que, voilà, tous ceux qui ont des enfants savent comment ça se passe.
Il y a beaucoup de maîtres, beaucoup de femmes célibataires.
Non, mais bien sûr.
Ça,
je l'entends, madame, qu'on soit une mère célibataire ou pas, les enfants, à partir d'un certain âge.
Ils sont mariés, divorcés. Et
oui, non, mais d'accord, madame, j'entends bien. Madame, faut juste me laisser terminer, hein.
Voilà. Excusez-moi, monsieur Serrano.
Merci.
Autant pour moi.
Non, mais c'est pas grave. Je comprends ce que vous dites. Vous êtes en train de me dire l'enfant, il devient compliqué, et la mère se dit peut-être qu'avec le papa, il va pouvoir le cadrer. Et peut-être que s'il peut bénéficier de cette nationalité française, le gamin peut arriver sur le territoire français. Donc j'ai bien compris ça. Mais je dis qu'avant de discuter tout ça, madame, puisqu'il y a un juge algérien qui a rendu une décision, vous devez, enfin, elle doit quand même, dans ce cas-là, retourner devant le juge pour dire. Ou alors pour que le père dise « c'est moi qui vais désormais m'occuper exclusivement de ce gamin ». Donc il faudrait d'abord repartir de la base.
Bien. Fatia, si vous voulez continuer cette conversation avec Maître Serrane, appelez-le sur son téléphone portable. Il a l'air ronchon comme
non,
ça, mais il est très très gentil.
Pas du tout, je suis le type le plus sympa du monde. 06 62 58 59 64. Non mais c'est important de connaître les finalités de tout ça. 06 62, 58, 59, 64.
Il est colère, maître Serrane.
Non, je vais vous dire ce qui me fait peur.
Oui.
Sincèrement. Ce qui me fait peur, c'est que toute l'Algérie est en train de nous dire on veut tous devenir français. Donc je dis dans ce cas-là, les gars, fallait pas demander l'indépendance.
Voilà. Maître Serrane était énervé. Vous voyez qu'il était énervé. À samedi prochain, Maître Serran.
Inch'Allah.
Allez, heureusement, on va parler de cuisine dans un... Non, pas heureusement, on va parler de cuisine dans un instant. Restez avec nous, Maître Serran. À samedi.
11h midi, c'est tout droit, avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.